Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite un très bon sabbat enrichissant. L'année passée, l'Église de Dieu Association mondiale a imprimé un livre. Le livre était « Les cinq outils pour la croissance spirituelle », c'est-à-dire la prière, l'étude biblique, le fait de jeûner, la méditation et la fraternisation. Et M. Jérémy Lallier, qui était l'auteur de ce livre, en parlant du but du livre, a dit « Comment utilisez-vous ces choses pour produire le plein potentiel ?» Les cinq domaines que nous venons d'évoquer, comment Dieu les a-t-il conçus pour être utilisés? Nous aurons par la suite, ça prend toujours du temps, mais nous aurons par la suite la traduction de ce livre en français. Et aujourd'hui, j'ai voulu vous parler d'un de ces outils, un outil avec lequel nous sommes peut-être moins familiers, c'est l'outil de la méditation. Et la méditation, c'est ça le titre de ce sermon, la méditation, c'est le trait d'union spirituel, le trait d'union entre le fait d'étudier la Bible et le fait de l'incorporer dans notre vie, de le mettre en pratique dans notre vie. De très grands arbres peuvent tomber quand leurs fondations sont affaiblies. S'il y a un excès d'humidité autour de l'arbre et autour de ses racines et qu'il vient une grande tempête, la puissance du vent peut faire tomber l'arbre parce que l'arbre ne sera pas, s'il y a trop d'humidité, dans le sol, autour de ses racines, l'arbre ne pourrait pas résister à la force du vent. L'arbre ne sera pas assez ancré. Et nous avons besoin de fondations solides. Des fondations qui résistent aux tempêtes que nous pouvons connaître dans notre vie. La longévité spirituelle, c'est dans le fait de faire, pas uniquement dans le fait de croire. Et la méditation, donc, c'est le trait d'union spirituelle entre le fait de croire, le fait de lire, le fait d'étudier même la Bible et le fait de le mettre en pratique. Nous avons besoin d'ancrer nos connaissances pour que nous soyons solides spirituellement et pour que nous puissions croître spirituellement. Et il est important aussi pour nous de reconnaître, de voir que nous avons un ennemi, entre autres, un ennemi qui est toujours d'actualité, un ennemi qui est toujours présent dans notre vie, toujours un danger dans ce sens, et qui est contenu dans la parabole du semeur. La semence, une partie de la semence, vous vous rappelez la parabole du semeur, une partie de la semence était semée parmi les épines. Et je ne m'y rapporte pas, mais dans Matthieu chapitre 13 et le verset 22, nous voyons, et je cite, « Les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole, donc cette parole de Dieu, et la rendent infructueuse. » En Marc, on dit l'invasion, entre autres, on dit l'invasion des autres convoitises. Et dans Luc, les plaisirs de la vie. Donc, les leçons ou la leçon que nous pouvons apprendre de cette parabole, c'est que c'est possible pour les soucis quotidiens de la vie ou les distractions de la vie, que ces choses peuvent nous distraire de nos efforts spirituels. c'est-à-dire le temps que nous passons avec Dieu par la prière, l'étude de la Bible, le jeûne et la méditation, toutes ces choses peuvent être minimisées dans notre vie de tous les jours, et peut-être surtout la méditation. C'est une question de priorité. Dans notre vie moderne, nous avons souvent beaucoup de choses à faire, et nous pouvons aussi penser que la méditation c'est d'une moindre importance, que c'est quelque chose d'à côté, quelque chose qui est relativement mineur et de moindre importance. Si nous avons le temps, si nous trouvons un moment, nous allons peut-être essayer de le caser entre deux activités, mais peut-être dans notre esprit, c'est secondaire. Et que nous ne voyons pas que cela nous aide dans notre cheminement spirituel. Et c'est quelque chose qui va vraiment nous aider quand nous le pratiquons. J'ai parlé dans un sermon précédent, de Psaume chapitre 1, et comme quoi c'était une prophétie conditionnelle, autrement dit, la chose se réalise quand nous le mettons et si nous le mettons en pratique. Psaume 1 nous encourage à méditer sur la loi de Dieu jour et nuit. C'est ce que nous voyons ici mentionné comme exemple. Psaume chapitre 1, donc, est le verset 1. Psaume chapitre 1 est le verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Il est heureux s'il évite ses pratiques et qu'il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Verset 2. C'est pas uniquement le fait d'éviter un certain nombre de choses, c'est aussi le fait de faire un certain nombre de choses pour être heureux, justement. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il a cette disposition d'esprit, mais il va plus loin et qu'il la médite jour et nuit. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et il la médite. C'est quelqu'un qui va vouloir mettre la loi de Dieu en pratique dans sa vie personnelle. Le mot en hébreu utilisé pour le mot « médite » en français, c'est le mot « haga » qui signifie « considérer » ou « réfléchir » ou « songer ». L'ouvrage biblique Strong's dit que le verbe hébreu « haga » signifie principalement « méditer » ou « réfléchir » profondément. Il transmet l'idée d'une considération réfléchie. Et nous voyons dans le verset 3 des résultats concrets. Dans le verset 3, nous avons les conséquences de quelqu'un qui évite ce qui est mentionné dans le verset 1, qui pratique ce qui est mentionné dans le verset 2. Il y a donc des conséquences. Verset 3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Ce sont des résultats concrets. Évidemment, quelqu'un qui est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, c'est quelqu'un qui sera heureux. Nous vivons dans un monde qui bourdonne souvent d'activités et nous avons peut-être souvent le sentiment de ne pas avoir une minute à nous et de ne même pas avoir le temps de réfléchir. Or, justement, méditer ensemble, c'est prendre le temps de bien réfléchir, de s'arrêter, de se poser. Et ça, c'est un clé pour la méditation. de prendre le temps. Méditer, c'est réfléchir profondément sur un sujet précis pendant un certain temps. Et bien entendu, ceci peut nous amener à réfléchir par la suite à un autre sujet. Il peut y avoir des ramifications. Il peut y avoir, ça dépend de la méditation que nous effectuons, mais il peut y avoir des implications, des conséquences qui découlent de ce sujet. Et ça nous amène à méditer sur un autre sujet, de développer notre réflexion. Le fait de méditer logiquement élargit notre esprit, ouvre notre esprit à un certain nombre de sujets, et ça peut aller jusqu'à voir nos relations avec les autres. Il faut que cela enrichisse notre vie quotidienne. La méditation est active et, si elle est bien faite, est positive. Il y a beaucoup de sujets que nous pouvons méditer. Dans la vie moderne, nous pouvons être amenés à faire plusieurs choses à la fois, mais l'on ne peut pas exploiter au maximum ses capacités, nos capacités mentales et nos capacités créatives et même notre capacité de nous détendre quand nous ne réfléchissons jamais profondément sur un seul sujet. Méditer pour un chrétien exige qu'on laisse de côté pour un temps ses autres préoccupations et qu'on ne réfléchisse qu'à un sujet clé, qui, comme j'ai dit tout à l'heure, peut nous emmener à réfléchir, à méditer sur d'autres sujets. Cela s'apprend. Et notre monde actuel, souvent, n'est pas habitué à la méditation biblique. Je dis bien méditation biblique, comme elle est décrite dans la Bible. Ça donne une autre dimension à la vie. Genèse chapitre 24 et le verset 63, nous voyons ici un exemple de méditation. Genèse chapitre 24 et le verset 63. Il s'agit d'Isaac avant qu'il soit marié. Genèse chapitre 24 et le verset 63. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda et voici des chameaux arriver. Il y a plusieurs choses que nous pouvons voir dans ce verset. Premièrement, il désirait méditer, il voulait méditer, et c'est effectivement l'outil que Dieu nous donne, il le faisait. Et peut-être nous avons besoin, si nous n'avons pas trop envie de méditer, de demander, de prier pour que Dieu nous donne cette envie, ce désir de vouloir méditer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ici, nous voyons le cadre. Le cadre de sa méditation, il est sorti pour méditer dans les champs. Dans les champs, il n'y avait pas de distraction. Nous pouvons imaginer que c'était tranquille, paisible, en dehors. Il savait qu'Abraham avait envoyé son serviteur avec serment pour prendre une épouse. Pour lui, il y avait de quoi méditer et nous remarquons ici le cadre. Cela peut aider beaucoup quand on veut méditer. Un parc peut-être nous permettra de méditer plus facilement. Un jardin et si nous sommes plutôt à la campagne, peut-être un chemin de campagne, une piste en forêt. Un endroit où on peut admirer un lever ou un coucher de soleil, ça peut être des endroits propices à la méditation. Il y a un certain nombre d'endroits qui sont tranquilles le soir. Évidemment, nous devons éviter des endroits à risque, des endroits qui ne sont pas sûrs. Nous vivons dans un monde avec beaucoup de dangers, donc il faut être très prudent. Il faut faire attention. Et pour la troisième chose, effectivement, le moment, c'est le soir. Le soir, normalement, tout au moins à l'époque, le gros de travail de la journée est derrière. Ses responsabilités étaient probablement derrière aussi. Il a choisi un moment opportun pour méditer. Nous n'avons pas forcément les mêmes possibilités, ça dépend bien sûr où nous vivons, mais nous pouvons trouver d'autres moments quand nous sommes moins susceptibles d'être interrompus pour que nous puissions faire une méditation de qualité. C'est à nous de voir, bien entendu, en fonction de notre propre situation. À midi, le soir ou le matin, bien entendu, nos vies sont très différentes, mais ça commence avec le fait de vouloir méditer, parce que c'est la voie de Dieu. Il faut que nous puissions essayer de créer un environnement qui est le plus propice pour méditer. Le sabbat, normalement, le sabbat est très propice pour méditer. C'est un jour de repos. Nous comprenons le symbolisme de ce jour et nous pouvons profiter du sabbat pour méditer. Psaume 63 et le verset 2. Psaume 63 et le verset 2. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Nous voyons ici le désir de David, c'est un psaume de David. Il voulait vraiment s'approcher de Dieu, c'est donc le premier point que nous retrouvons dans ce psaume, le premier point que nous avons vu tout à l'heure. Nous trouvons aussi dans le verset 1, le deuxième point, le verset 1, psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Évidemment, il n'avait pas le choix à ce moment-là, mais c'était un endroit très tranquille où il pouvait méditer. Et puis le troisième point, ça c'est le troisième point par rapport à ce que nous avons vu tout à l'heure, se trouve dans le verset 7. Le verset 7, lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Il était aussi, à ce moment-là, il était tranquille. Méditer, c'est consacrer un laps de temps pour réfléchir profondément à propos de quelque chose. Mais il faut faire attention aussi. À notre époque, la vie est différente. Nous sommes souvent stressés de nos jours et nous avons besoin d'une quantité de sommeil appropriée, une quantité de sommeil suffisant. Il faut que nous fassions donc attention. Il faut prendre le principe. Le principe, c'est de trouver un moment tranquille, tout au moins où il y a moins de distractions. La situation de David était différente. Satan va tout faire pour que nous ne trouvions pas le temps de méditer. Psaume 119 et le verset 147. Psaume 119 et le verset 147. Dans les versets 147 et le verset 148, nous voyons le désir profond de l'auteur du psaume. Il voulait se rapprocher de Dieu, il voulait avoir un contact avec Dieu. Et dans le verset 147, je dévance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses, je dévance l'éveil, verset 148, je dévance l'éveil et j'ouvre les yeux, pourquoi? Pour méditer ta parole. Un désir très fort. De nouveau, nous voyons que pour l'auteur, c'était un endroit tranquille, un endroit approprié et aussi un moment approprié. Tout au moins pour l'auteur. Mais nous avons besoin de trouver du temps, de prévoir du temps dans nos vies qui sont parfois très occupées parce qu'il est très facile de mettre de côté, de négliger la méditation. Donc, l'auteur ne lisait pas seulement la Bible. Ces versets nous suggèrent que c'était quelqu'un qui lisait, qui étudiait et qui prenait le temps de penser à propos des implications de ce qu'il lisait. Quelqu'un qui posait des questions pertinentes, approfondies, telles que « qu'est-ce que ceci me dit à propos de Dieu et de sa grandeur ?»« Qu'est-ce que ceci me dit ?» Donc, ce qu'il lisait, ce qu'il étudiait, qu'est-ce que ceci me dit à propos de comment je devais vivre ma vie pour être en harmonie avec la volonté de Dieu, avec la volonté de mon Créateur. Quand nous méditons, il est bon de se poser des questions. Par exemple, si nous étudions une écriture, nous pouvons nous demander quel est le point principal de cette écriture. Pourquoi c'est suffisamment important pour faire partie de la Bible? Si nous étudions un sujet biblique, nous pouvons nous poser la question pour savoir, si c'est approprié, comment cela s'applique à ma vie. Qu'est-ce que ça devrait changer dans ma vie? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ceci fasse partie de ma vie? Nous pouvons aussi nous poser des questions telles que quoi, qui, où, comment et pourquoi. Quand nous étudions l'écriture, quand nous étudions un sujet, et nos réponses peuvent nous aider. Quel est le contexte d'un passage? Quel est le contexte d'un événement? Et aussi, pourquoi Dieu a inspiré le passage que nous lisons, l'écriture que nous abordons? Nous n'aurons pas toujours des réponses, mais ça nous permet de réfléchir, de penser et de méditer, d'ouvrir nos horizons, d'avoir des réflexions profondes, de se poser des questions, d'essayer de répondre. Il nous faut étudier la Bible, mais pas à la hâte. Et c'est une autre façon de méditer, c'est que tout en étudiant, nous prenons le temps de savourer la parole de Dieu. Parce qu'il faut être à ce que nous faisons. Il faut nous concentrer sur ce que nous sommes en train de faire. Et nous pouvons réfléchir, méditer sur ce que nous sommes en train d'étudier. Il a été dit que la méditation est à l'étude de la Bible ce que la digestion est au fait de manger. Je répète, il a été dit que la méditation est à l'étude de la Bible, ce que la digestion est au fait de manger. Quand nous mangeons, il faut que la digestion se fasse. Et si nous mangeons trop vite, la digestion va être plus difficile. Pour mieux fonctionner, Nous avons besoin de bien digérer ce que nous venons de manger. Du reste, Dieu nous dit de prendre soin de notre corps. Une bonne digestion nous aide et notre corps à mieux fonctionner. Et de la même façon, la méditation nous aide à mieux fonctionner en tant que chrétien. Pour que nous soyons, pour que nous devenions un meilleur chrétien. Il faut que nous prenions le temps pour que, en mangeant, pour que la digestion se fasse correctement. Et il nous faut prendre le temps quand nous étudions aussi pour que nous puissions méditer correctement. Pour que nous puissions digérer notre nourriture spirituelle. Proverbes chapitre 4, à partir du verset 23. Proverbes chapitre 4, à partir du verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Une ligne de conduite juste. Et pour avoir un comportement juste, nous voyons la suite dans le verset 26. Le verset 26, considère le chemin par où tu passes. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Il faut réfléchir à ce que nous allons faire. L'ouvrage Strong's, en parlant du mot traduit en français par considère, donne le sens de tourner, c'est-à-dire peser mentalement. Si nous avons, par exemple, une décision à prendre, de réfléchir profondément pour savoir, pour se rendre compte si nous prenons une certaine décision, si nous agissons bien, en nous basant, bien sûr, sur la parole de Dieu, ou si nous prenons une autre décision, si nous agissons mal. C'est une réflexion approfondie. Et à la fin du verset, c'est marqué que toutes tes voies soient bien réglées. Le rabbinat dit ceci pour pouvoir cheminer en sûreté. Et si nous prenons une bonne décision basée sur la parole de Dieu, nous allons cheminer en sûreté. Second 21. Fais une route droite pour tes pieds et que toutes tes voies soient bien sûres. Si nous étudions une vérité biblique, un principe biblique, nous pouvons nous demander comment la pratiquer, comment mieux la pratiquer dans notre vie et comment cela s'applique à notre vie, comment mieux l'appliquer. Et nous pouvons aussi, en réfléchissant, en méditant, voir tous les bénéfices que cela va nous procurer. Comment mieux obéir, comment mieux aider autour de nous, comment mieux nous comporter. Ce n'est pas le matériel qui nous manque. Nous avons énormément d'articles maintenant, nous entendons beaucoup de sermons et nous pouvons approfondir nos connaissances et nous pouvons méditer sur ces connaissances pour que notre méditation deviennent le trait d'union spirituel entre notre étude et le fait de le mettre, de mettre ce que nous avons étudié en pratique dans nos vies. Proverbes chapitre 6 et le verset 6, nous sommes assez familiers avec Proverbes chapitre 6 et le verset 6. Va vers la fourmi paresseuse considère ses voies et devient sage. Évidemment, il n'y a pas que les paresseux qui peuvent apprendre de la fourmi, qui peuvent considérer ses voies. Quand nous étudions, quand nous regardons la vie des fourmis, nous pouvons apprendre un certain nombre de choses. Ils savent, les fourmis, elles savent comment utiliser le temps. Elles sont très travailleuses. C'est des travailleuses acharnées. Elles sont très organisées. Elles ont une, entre guillemets, une mission à accomplir et elles vont jusqu'au bout. Dieu les a créées comme ça. À nous d'apprendre, de considérer ses voies. Du reste, nous avons l'expression « un travail de fourmi » qui signifie un travail minutieux et qui demande de la patience et de la persévérance. Elle fait référence donc à la fourmi, qui est réputée pour être une grande travailleuse et efficace dans ce qu'elle entreprend. Un travail de fourmi est un travail qui avance lentement, mais de manière efficace vers l'objectif. J'ai une autre définition. Faire un travail de fourmi est une expression qui signifie que quelqu'un accomplit une tâche minutieuse qui demande du temps, de la patience et de la persévérance. Comme les fourmis qui effectuent un travail collectif et organisé pour construire leur fourmilière, cette expression est souvent utilisée pour décrire des efforts soutenus et méticuleux pour atteindre un objectif ou réaliser un projet. J'ai regardé un extrait d'une vidéo intitulée « La planète des fourmis ». J'ai regardé seulement un extrait de cette vidéo et au début, il parlait d'une des merveilles, en parlant des fourmis, une des merveilles de la nature. Elles forment des sociétés très organisées, elles gèrent des réserves de nourriture et ce sont des architectes hors pair. Chacun a un rôle à jouer dans une fourmilière. Il y a une harmonie. Elles sont très organisées. Nous pouvons apprendre des fourmis. Nous pouvons considérer les fourmis et nous pouvons méditer sur les fourmis. 1 Timothée chapitre 4 et le verset 15. 1 Timothée chapitre 4 et le verset 15. Ce sont des instructions que Paul avait données à l'évangéliste Timothée à l'époque. Dans le chapitre 4, Paul parle d'un certain nombre de choses. Et dans le verset 15, c'est un genre de conclusion. Verset 15. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Nous pouvons prendre le même principe de s'occuper des choses que Dieu nous a révélées, que Dieu nous a confiées, pour que nous soyons davantage ancrés dans la foi. Dieu nous a donné sa vérité et il nous a aussi donné, pour ainsi dire, une feuille de route. Comment nous comporter? En priant, en étudiant sa parole, en jeûnant par moments pour rester proche de Dieu, en méditant et en pratiquant la fraternisation. Nous devons nous occuper de notre croissance en analysant le mot « occupe-toi ». Loueur parle de prendre soin d'eux, s'occuper soigneusement, pratiquer. Et Strong's parle de tourner, c'est-à-dire peser mentalement. nous devrions tourner et même retourner les choses dans l'esprit. Tourner, retourner dans l'esprit les instructions que Dieu nous a données. La version Trompant traduit ce verset de la façon suivante. Médite ces choses. Médite ces choses et sois-y tout entier afin que tes progrès soient évidents pour tous. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Si on met ces choses à profit, si nous méditons en faisant les autres choses aussi, nous allons faire du progrès. Peut-être au début, parce que c'est peut-être difficile, que nous n'avons pas l'habitude, peut-être au début, il nous faut prendre un petit sujet et à petit, nous allons pouvoir améliorer notre méditation. Mais il faut que nous soyons conscients que ça demande un effort mental. Ça demande un effort mental. Qu'est-ce qu'il faut méditer? Quelles sont les choses qu'il faut méditer? Il y a différents sujets de méditation, plus ou moins lourds. Il y a des sujets joyeux, comme la perfection de la création, les merveilles. On a vu tout à l'heure les fourmis. On peut voir les merveilles, on peut voir l'harmonie, la magnificence, le visible et l'invisible. Et Dieu a pensé dans les détails. Nous voyons la perfection aussi dans les détails de la création. Et tout ceci, en le méditant, élève l'esprit. Dans Discerner, la revue Discerner que nous imprimons, que nous publions, nous voyons parfois des photos où nous voyons les merveilles de la création de Dieu. Nous voyons aussi dans la Bible la méditation évoquée quand il s'agit de la création de Dieu. Nous le voyons dans Psaume 77 et le verset 12. Je vais lire la traduction Martin. Et j'ai médité toutes tes œuvres et j'ai discouru de tes exploits. Dans le semeur, je veux méditer sur tes œuvres et réfléchir à tes hauts faits. La création de Dieu était un sujet de méditation. Et dans les psaumes, l'accent de la méditation est régulièrement sur la loi de Dieu, les œuvres de Dieu et sur Dieu lui-même. Sa parole, ses actes, ses commandements, ses statuts, ses préceptes sont également des sujets de méditation que nous trouvons dans la Bible. Il y a une quantité de sujets que nous pouvons méditer. Nous pouvons, par exemple, méditer sur chacun des 10 commandements. Chacun des 10 commandements s'y prête à la méditation. Les béatitudes que le Christ a mentionnées dans Matthieu chapitre 5 sont un sujet dense pour méditer. Nous pouvons voir comment ça s'applique à nous, quels sont les différents aspects en ce qui nous concerne, qu'est-ce qu'il faut que nous changions dans nos vies pour être en harmonie avec, ne serait-ce qu'une seule béatitude. Et il y en a plusieurs. Quand nous étudions l'armure de Dieu mentionnée dans Éphésiens chapitre 6, ça ouvre la voie, la porte à une méditation sur chaque aspect de cette armure. Comment cette armure nous protège? Comment la porter? comment l'entretenir, comment le garder en bon état. Et ceci ne sont que quelques exemples. Il y a énormément de choses sur lesquelles nous pouvons méditer. Nous pouvons méditer aussi sur les noms de Dieu, parce que cela nous donne un aperçu de son caractère divin. Nous sommes familiers avec le mot Elohim, peut-être moins familiers avec El Roi, c'est un autre nom de Dieu qui définit le caractère de Dieu. Nous avons El Shaddai, le Dieu tout-puissant, et nous comprenons en méditant que rien n'est impossible à Dieu. Avec toutes les conséquences en ce qui nous concerne si nous faisons confiance à Dieu. La Bible dit, je suis l'alpha et l'oméga. Dieu est le commencement et la fin de toutes choses. Dieu a un plan. Il y a de quoi méditer sur ce plan. Et nous commençons à voir que ce n'est pas les sujets qui manquent quand il est question de méditation. Nous pouvons aussi méditer sur le millénium. Nous avons l'occasion de faire ça, par exemple, à la fête des tabernacles. Nous voyons aussi dans la Bible les résultats d'une bonne méditation. Nous le voyons dans Josué chapitre 1 et le verset 8. Josué chapitre 1 et le verset 8, nous allons commencer à lire à partir du verset 7 pour situer le contexte. C'est Dieu qui parle à Josué. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. D'observer la loi de Dieu pour réussir. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il fallait que le livre de la loi soit vraiment présent à son esprit. Et la loi de Dieu est présent à notre esprit quand nous étudions la parole de Dieu. Mais dans le verset 8, il est aussi question de ce trait d'union entre la connaissance de la loi de Dieu et le fait de la mettre en pratique. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, donc constamment, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Et à ce moment-là, il y a la réussite, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et c'est à nous de réfléchir profondément sur ce que nous lisons, sur ce que nous étudions, de réfléchir pour savoir comment ce que nous venons d'étudier s'applique à nos vies personnelles, à notre vie de chrétien de tous les jours. Nous pouvons, bien entendu, méditer, réfléchir sur nos erreurs passées, pour voir ce que nous pouvons apprendre. Nous pouvons méditer sur les événements majeurs de notre vie, de savoir où nous en sommes dans nos vies de tous les jours. Mais nous pouvons également regarder l'avenir, de méditer sur ce que nous pensons faire différemment à l'avenir. Dans le psaume 119 et le verset 105. Psaume 119, verset 105, je m'y rapporte pas. Nous lisons, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Nous pouvons nous servir de la parole de Dieu en méditant pour éclairer le chemin que nous voulons prendre, le bon chemin, le chemin de la vie. J'ai voulu terminer ce sermon en nous montrant ce que nous pouvons, et c'est très positif, ce que nous pouvons introduire dans notre vie. Et que nous pouvons introduire dans notre vie à travers la méditation. Nous pouvons introduire ce qui est honorable. Nous pouvons introduire ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable. Nous pouvons introduire ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne du louange. Et probablement vous avez reconnu l'écriture qui se trouve dans Philippiens chapitre 4 et le verset 8. Nous allons le lire. Philippiens chapitre 4 et le verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et si c'est l'objet de nos pensées, nous allons donc introduire ces éléments dans notre vie. La traduction Semeur parle de nourrissez vos pensées. Nourrissez vos pensées. Et nous avons la suite dans le verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Le Dieu de paix sera avec vous. Nous avons besoin, pas uniquement d'étudier la parole que Dieu nous a donnée, mais de le méditer aussi, et de mettre en pratique dans nos vies. Que ce ne reste pas au stade d'une idée seulement. Sachant que nous ne luttons pas seulement pour le fait de s'abstenir de pécher, mais que nous cherchons aussi la croissance et la transformation qui vient quand nous mettons la parole de Dieu dans nos cœurs, dans nos esprits et dans nos vies. Si nous méditons les trois points que j'ai mentionnés dans ce sermon, ça peut nous aider. Mais l'essentiel, c'est d'utiliser cet outil que Dieu nous a donné pour croître, pour changer et pour devenir ainsi une meilleure personne. Un meilleur chrétien.